Vous écoutez
RMC. RMC, Charles Matin.
Et Quentin Vinet est là pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Bientôt des fiches de paye plus simples, plus faciles à comprendre. Le gouvernement va dévoiler son projet de loi ce matin sur la simplification administrative. On va passer de 55 à 15 lignes sur les bulletins de salaire. Kenji Girac, tiré d'affaire, selon son manager, toujours hospitalisé à Bordeaux. L'enquête se poursuit 48 heures après sa blessure par balle. Et l'information de la nuit, les États-Unis qui, ça y est, valident l'aide très attendue de 61 milliards d'euros, très attendue depuis des mois par l'Ukraine.
On y verra donc bientôt plus clair sur nos feuilles de paie.
Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, présentera ce matin un projet de loi sur la simplification administrative, la fameuse bureaucratie à la française. Simplification qui va commencer, il était temps, par le bulletin de salaire, Romain Cluzel.
Et le ministre de l'économie affiche son ambition. Bruno Le Maire souhaite passer de 55 lignes en moyenne sur un bulletin de salaire à une quinzaine. Une manière de rendre les feuilles de paye plus lisibles et surtout plus compréhensibles. Alors comment l'exécutif compte-t-il s'y prendre? Eh bien en regroupant de nombreuses lignes. Par exemple, le détail des cotisations patronales et des cotisations salariales. Il n'y aurait plus qu'un seul montant indiqué pour chaque catégorie au lieu du détail. Bruno Le Maire l'assure, l'entreprise aura toujours accès à ce détail des cotisations et un salarié pourra en prendre connaissance s'il le souhaite. Reste à confirmer cette simplification, d'abord au Parlement, puis dans les entreprises, parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente de réduire le nombre d'informations sur les fiches de paye. On compte 5 tentatives sur les 25 dernières années, jusqu'ici sans succès.
Les 3/4 des avions seront annulés demain avec la grève qui est annoncée des contrôleurs aériens, mouvement qui porte notamment sur les salaires. Il y aura 75% des vols annulés à Orly, 65% à Charles de Gaulle et Marseille, 60% à Nice et Toulouse, la moitié dans les autres aéroports et un préavis qui est déjà déposé pour le pont de l'Ascension début mai.
Le tout alors que les contrôleurs aériens avaient promis qu'ils ne feraient pas grève jusqu'à la fin de la séquence olympique. On veut vous entendre ce matin sur ce sujet. Appelez-nous au 3216. Est-ce que vous comprenez cette grève des contrôleurs aériens? Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Venez nous dire également, je ne sais pas si vous aviez un billet d'avion pour demain. Comment ça se passe pour vous? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous arrivez à gérer le stress qu'on imagine que tout ça engendre? Vous nous appelez 3216 et application RMC rubrique direct studio pour laisser vos messages également.
Réponse cet après-midi pour les 230 salariés de l'usine Duralex dans le Loiret, le tribunal de commerce d'Orléans qui va se prononcer cet après-midi sur la demande de placement en redressement judiciaire du fabricant de verre qui est en difficulté financière, subissant de plein fouet la crise de l'énergie, d'où l'inquiétude. Écoutez avec Cassandre Brault.
21 ans que ce salarié travaille chez Duralex. Il avoue la gorge serrée, être très inquiet de perdre son emploi.
Ça fait des années que je travaille ici, mon permis a fait rentrer il y a très longtemps. Et c'est vrai que non, sans lui, j'aurais pas eu de travail comme ça. Et puis, je sais rien faire d'autre, quoi, en fait.
Des angoisses partagées par une grande partie des salariés que côtoie François Dufresne, délégué CGT.
Les gens, ils sont inquiets. Surtout qu'on a eu une réunion sur le développement commercial, une présentation il y a 3 semaines. Et 3 semaines après, on nous met en redressement. Alors les gens, ils se posent des questions. Ils demandent un peu ce qui se passe.
Une nouvelle tentative de sauvetage, 3 ans après avoir été racheté par Pyrex.
On espère que tout le monde soit sauvé, que l'usine soit sauvée.
Duralex, c'est l'entreprise phare de la Chapelle Saint-Ménin, comme l'explique Valérie Barthe-Chenot, maire de la ville.
Il y a eu près de 1500 salariés sur ce site. Tous les habitants connaissent quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé ici. Donc c'est toujours un choc d'apprendre les déboires de l'entreprise.
Le ministère de l'Industrie assure que l'État et la préfecture se mobilisent pour trouver un repreneur.
Il est 6h04 sur RMC. On a des nouvelles rassurantes de Kenji Girac ce matin.
Oui, le chanteur est tiré d'affaire, nous dit son manager 48 heures après avoir été blessé par balle sur l'aire de passage de Jean du Voyage à Biscarrosse dans les Landes, dans des conditions qui sont encore floues. Pierre Bourgès, correspondant de RMC à Bordeaux, où il est hospitalisé. L'enquête se poursuit.
Oui, les enquêteurs ont pu auditionner la femme, la tante et l'oncle de Kenji Girac. Ils indiquent bien qu'il se serait fait cette blessure seul. D'après les témoignages, le soir de l'incident, le chanteur et sa femme seraient rentrés du casino vers 3h du matin. C'est quelques minutes plus tard qu'un coup de feu a blessé l'homme au niveau du poumon et de l'intestin. Kenji Girac n'est pour le moment pas en état d'être auditionné, mais il reste encore des zones d'ombre pour les enquêteurs. Pourquoi avait-il cette arme avec lui? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Pour le moment, il y a encore beaucoup d'incompréhension du côté des proches de Kenji Girac. Admet Alban Travia, son co-manager. C'est en partie pour cette raison que la communauté des gens du voyage souhaite rester silencieuse pour l'instant.
L'information de la nuit, elle nous vient des États-Unis.
ou après le Congrès, voilà, que vous entendez, le Congrès qui a validé l'aide très attendue de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine en guerre contre la Russie. Remerciement immédiat dans la nuit de Volodymyr Zelensky. Des armes envoyées dès cette semaine, voilà ce que promet Joe Biden. Ça faisait des mois que des républicains bloquaient ce vote. 26 milliards de dollars ont également été débloqués pour Israël après 200 jours de guerre contre le Hamas, au moment où Amnesty International nous dit que l'ordre mondial bâti en 45 après la guerre est au bord de la rupture, critiquant Israël et les États-Unis d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre. Des accusations, tiens, en pleine campagne des européennes. On reparle de la liste du Rassemblement National après la polémique sur la numéro 2, Malika Sorel, qui avait fait des offres de service à Emmanuel Macron. Cette fois, il s'agit du numéro 3, Fabrice Ruggeri, accusé de complicité dans la mort de nombreux migrants. À l'époque, nous disent des associations, à l'époque où il était le patron de l'agence européenne de garde-frontières Frontex, Cyprien Pézeril.
Entre 2015 et 2022, Fabrice Ruggeri, alors patron de Frontex, aurait refoulé des bateaux de migrants des eaux grecques vers la Turquie. Il aurait aussi communiqué des coordonnées GPS d'embarcations aux autorités libyennes, pays où ces migrants risquent la torture, et alors que le droit international oblige au contraire à porter assistance. Voilà qui justifie donc une action devant la justice pour Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
À partir du moment où ça cause des morts, ça peut constituer des crimes contre l'humanité, et donc Monsieur Ruggeri a été complice en allant au-delà même des compétences qu'il avait à l'intérieur de l'agence Frontex. Notre travail était déjà engagé bien avant qu'on apprenne que M. Ruggeri allait être candidat.
Joint par RMC, Fabrice Ruggeri, désormais donc candidat RN aux européennes, dénonce, je le cite, des manœuvres politiciennes et assure que l'agence de garde-frontières a respecté le droit et a sauvé plus de 350 000 migrants en mer. Le Rassemblement National qui d'ailleurs fait bloc. Marine Le Pen et Jordan Bardella accusent les associations à l'origine de la plainte de défendre, selon eux, une submersion migratoire.
C'est la semaine de tous les dangers, hein, vous le savez, pour les agriculteurs, avec le froid digne de fin février, alors qu'on est fin avril. Jusqu'à moins 5 degrés mesurés par endroit depuis le début de la semaine, ce qui n'est pas sans conséquence, Martin Cadoré.
Une semaine que Joris Faudeau, viticulteur dans le Jura, surveille le thermomètre en permanence. Ce qu'il redoutait, s'est produit dans la nuit de lundi à mardi.
La lune était pleine, le temps était clair. C'est là que ça fait des dégâts. Ça a attaqué à geler, il était 1h30, il faisait déjà moins. On avait 10 jours d'avance, les jeunes pousses étaient bien sorties. C'est une catastrophe. On pense avoir perdu 50% de la récolte.
Heureusement, Joris a pu sauver sa parcelle la plus précieuse en allumant des bougies. Ce n'est pas le cas de Gilles Gléron-Mondet en Savoie. Il a perdu 30% de sa récolte de pommes.
C'est 50%. 1000 euros en moins. Nous, on n'a jamais protégé nos plantations. Les bougies, c'est quand même assez onéreux. Là, c'est vrai qu'on se dit qu'il faudrait peut-être mettre l'arrosage quand même. Ça devient compliqué de protéger tout, quoi. Un coup, c'est le gel, un coup, c'est la grêle, après, bah, c'est la sécheresse. Tout ça, c'est un coût, quoi. Hein.
Dans le Vaucluse, c'est la vigne qui a été touchée. Joël Bouscarle est le président de l'AOC Luberon.
On a des exploitations qui ont perdu les trois quarts de leur superficie. On va solliciter les pouvoirs publics, mais ce seront des petites mesures d'allègement de taxes ou de report d'échéance d'emprunt, voilà, pour essayer de passer l'année.
Lui-même, viticulteur, il mise sur de petites repousses les prochaines semaines pour limiter les dégâts.
Ouais, c'est peut-être ce soir que Paris va remporter son 12e titre de champion de France de Ligue 1. Trois matchs décalés, ceux des clubs qui jouaient la Coupe d'Europe la semaine dernière. Dans trois matchs ce soir, Paris à Lorient sera à 19h. Les Parisiens seront sacrés si Monaco ne gagne pas contre Lille à 21h dans la bataille pour le podium. Et à la même heure, il y aura aussi le choc de la Méditerranée entre Marseille et Nice.
Ouais, grosse soirée en Ligue 1, évidemment, avec
que des affiches.
Ouais, que des grosses affiches qu'on suivra évidemment sur RMC.